R22 tout le monde, antenne Kiasma.
Bonsoir. Alors, je m'appelle Alice Rivière et je suis une mutante. Il n'y a rien de très exceptionnel à ça, car au niveau strictement génétique, on est tous des mutants. L'évolution des espèces, quelle qu'elle soit, s'est réalisée par mutation interposée. Mais la mutation qu'implique la maladie de Huntington nous rend vraiment très différents de nos congénères. On est comme des humains normaux, on grandit comme tel pendant de longues années, choisissant un métier, faisant des rencontres, parfois des enfants. Et puis au bout d'un moment, la plupart du temps au beau milieu de la vie d'adulte, entre 30 et 50 ans, on commence à changer. On n'arrive plus à penser à plusieurs choses en même temps, ce qui est considérablement invalidant. On a de plus en plus de problèmes d'équilibre. Et puis on se met à bouger tout seul, des mouvements bizarres, incongrus, comme si certains membres de notre corps prenaient des détours pour arriver à leur fin. Pour saisir une tasse de café, notre main fait des boucles dans l'air. Nos têtes se rejettent violemment vers l'arrière ou le côté, ainsi que nos bustes et nos jambes. Nos regards aussi ont du mal à fixer les choses. Ils font des détours. Nos sourires sont tout tordus et parfois nous n'arrivons même pas à sourire, même si nous en avons envie. Souvent, on se met à maigrir. D'abord parce que manger devient compliqué, surtout qu'on se met à beaucoup avaler de travers, mais aussi parce que tous ces mouvements équivalent à un marathon qu'on courrait sur place chaque semaine, en tout cas pour les plus gigoteurs d'entre nous. Parler devient de plus en plus difficile, tandis que notre pensée ralentit au point de prendre une lenteur paranormale. Nos humeurs se mettent aussi à remuer de manière très déroutante. Nous sommes tour à tour amorphes, agités, en colère, présents au monde de manière intermittente, dans une sorte de décalage horaire perpétuel vis-à-vis de ce qui nous entoure. On finit dans nos lits, entourés d'une armada de soignants pour les plus équipés. Et chemin faisant, tout ce dans quoi on se trouvait à ce moment-là, tout ce qu'on avait bâti après tant de labeur, se trouve progressivement inadapté à ce qu'on est en train de devenir. En octobre 2027, je notais ceci dans mon journal. Il y a longtemps, je me suis donné comme tâche de raconter ma métamorphose au fur et à mesure. J'étais naïve. Je pensais qu'une métamorphose, ça peut se raconter depuis le milieu, chemin faisant. C'était avant de comprendre que les chenilles deviennent de la boue d'elles-mêmes dans le cocon qui les transformera en papillons. Comment parler depuis la boue? Et surtout pour dire quoi? La dislocation, ça ne m'a pas intéressée de raconter ça. En plus, ce n'est pas innocent de raconter la boue de soi-même. C'est dangereux, comme de recréer artificiellement le siphon qui existe pour vous engloutir, et j'ai pas besoin de ça. » Fin de la citation. Je suis un personnage de fiction. Je suis apparue en 2008 dans un roman intitulé « Réveiller l'aurore » qui raconte comment j'ai appris que je suis atteinte de la maladie de Huntington, une maladie héréditaire, dégénérative, causée par une mutation génétique. Bien que mes symptômes ne soient pas encore visibles à l'œil nu, le test génétique que j'ai passé est formel. Cette maladie va se déployer dans les prochaines années et il n'y a rien que je puisse faire contre ça parce qu'elle est incurable, pour l'instant en tout cas. Notre mutation se transmet d'un parent à son enfant, sans sauter de génération, avec chaque fois 50% de probabilité. Ma mère l'a eu avant moi, elle l'a toujours d'ailleurs. Elle l'a attrapé de son père, qui l'avait attrapé de sa propre mère. Des familles entières se retrouvent ainsi touchées par Huntington, qui semble creuser sa propre lignée comme une étrange loterie. Ceux qui en sont, ceux qui n'en sont pas. Les familles explosent souvent sous la pression ésotérique de cette démarcation. Comme si elles ne parvenaient pas à contenir tant d'altérité en leur sein. C'est plus compliqué que ça. C'est si complexe. les effets de Huntington sur une famille. Ça demanderait un énorme développement, ou plutôt une histoire bourrée à craquer de détails pour commencer à mesurer tous les enchevêtrements de cette affaire. Et si je vais vous glisser un secret ? J'ai la chance d'avoir deux grandes sœurs. Nous formons un noyau robuste qui me protège où que j'aille. Cette maladie a changé bien des choses dans nos vies, mettant à rude épreuve notre famille, mais ce « nous trois » continue de se dresser comme un phare à l'horizon, fier et tendre, inconditionnel, bien plus savant, rusé et confiant que nos peurs. Alors, voici ce qu'on raconte sur les gens comme moi. Ça, c'était le « nous trois », j'ai oublié. Voici ce qu'on raconte sur les gens comme moi. Dans ses formes avancées, la maladie d'Huntington, c'est à la fois tout en même temps la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique et la schizophrénie. Ceux qui sont touchés par la maladie peuvent faire un test pour savoir s'ils sont hérités du gène. Et s'ils ont le gène, c'est une sentence de mort génétique. Ces images sont extraites d'un documentaire qui a été réalisé il y a 2 ans et qui est le documentaire le plus célèbre à ce jour réalisé sur la maladie d'Huntington, qui fait référence et qui est projeté régulièrement dans les congrès médicaux. J'ai longtemps été envoûtée par ce genre d'images et de messages, aujourd'hui encore majoritaires, qui génèrent des effets ultra puissants dont le premier est de réduire le destin des gens comme moi à une seule version absolument épouvantable de cette histoire. D'autant que la seule consolation avancée dans notre cas par la communauté médicale, il faut garder espoir car un médicament finira bien par être inventé, n'a jamais eu aucun effet sur moi. Placer tout son espoir dans le même panier de cette virtualité extrêmement lointaine-là n'arrange pas du tout mes affaires qui se déroulent maintenant et pas seulement plus tard ou après ma mort. Si bien qu'après avoir passé le test, mon problème était, et reste toujours d'ailleurs, le suivant. Comment parvenir à survivre à ce genre de vision mortifère qui, telle une espèce de boa constrictor, asphyxie notre atmosphère, nous étouffe par un serrement progressif, quoi qu'on fasse.
Mais pour cela, il faut avoir confiance.
Je n'ai plus confiance en personne.
Oh, je ne te le reproche pas. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prétendus amis. Tu peux avoir confiance en moi. Aie confiance, crois en moi. Que je puisse attention, Vanessa. Fais un son sans méfiance. Je suis là. Aie confiance. Le silence propice te berce. Souris et sois complice. Laisse tes sens glisser vers ces délices dans ta trice. Tu dors, petit ?
Oui.
Il se trouve que j'étais écrivain. Enfin, il serait plus juste de dire que j'étais un écrivain en devenir. J'écrivais depuis longtemps, et si je n'avais à ce moment-là pas encore trouvé mon gisement singulier, ma voix, mon truc, j'étais suffisamment écrivain pour que cette histoire me mette au travail par l'écriture. Et c'est en écrivant que j'ai trouvé mon échappée. Mon personnage est né du besoin vital, car il en allait de vie ou de mort, de me fabriquer une version différente des versions majoritaires et soi-disant objectives et indiscutables de Huntington. Par exemple, au sujet de cette histoire de sentence de mort génétique. Une fois qu'on est désenvoûté, qu'on n'est plus possédé par l'effroi que cette phrase a pour objectif de susciter, on peut déjà remarquer deux choses. Premièrement, il s'agit de métaphores, autrement dit de fiction, le texte et l'image. Deuxièmement, le fait que ce soit de la fiction n'est pas un problème. Au contraire, le problème, c'est que la qualité de la métaphore ici cloche profondément. Car qu'est-ce qu'une mort génétique ? Est-ce que la vie est génétique ? N'est-on pas tous des mourants génétiquement programmés, de toute façon ? Le fait de commencer à considérer ainsi ce genre de message au sujet d'Huntington m'a permis de comprendre qu'il procède soit d'une volonté de fabriquer du tragique à tout prix, soit d'un défaut d'imagination et de créativité, d'un arrêt de la pensée. Bon, encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a parmi les Huntingtoniens des personnes hantées par cette maladie parce qu'elles ont vu leurs proches malades devenir désincarnés, gesticulants, hagards et fous furieux, au point de tout faire exploser autour d'eux, de mettre le feu à leur maison 3 fois d'affilée et de vouloir mourir. Ces souvenirs restent ainsi figés, incompréhensibles et terrorisants tant qu'on n'entreprend pas de commercer avec eux. Je crois que, exactement comme ce qui se passe avec les fantômes, il est possible d'initier avec ces réminiscences des relations à nouveaux frais pour comprendre ce qu'elles ont voulu nous dire et ce que nous n'avons pas encore su entendre. Et si dans ce même documentaire, la séquence juste après celle de la sentence de mort génétique était la suivante ? Ça dit, mais vous réalisez l'impact que ça pourrait avoir sur la communauté des mutants ? Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, je respire à nouveau. Je ris, ce qui est, compte tenu des circonstances, la moindre des choses. La pensée s'ébranle, se faufile à la vitesse de l'éclair vers une infinité de versions possibles qui permettent d'appréhender des problèmes qui ne sont pas plus détachés des Huntingtoniens que ce que la version antérieure nous proposait. La première version nous frappe de stupeur, nous immobilise, tandis que celle-ci, en nous incitant à réfléchir en termes de communauté de mutants menacés d'extinction, nous met en mouvement. Il ne s'agit pas d'enjoliver les choses, ni de se retenir de pleurer, de gémir, de se plaindre face aux situations Huntington. Il s'agit de rester soigneusement attentif, voire carrément vigilant, aux effets que les messages, autrement dit les histoires qui sont créées à ce sujet, génère tant sur nous autres que sur le monde. Qu'est-ce qui nous renforce et qu'est-ce qui nous déforce ? La fiction était donc le seul moyen à ma portée pour me défaire de l'emprise du boa constrictor et pour commencer à m'arranger un devenir habitable tout en garantissant ma sécurité, car grâce à la clandestinité que m'offre le statut de personnage. Car encore aujourd'hui, vivre huntingtonien, c'est vivre planqué pour ne pas se retrouver avec des problèmes socio-économiques en prime sur les bras. Je me suis alors lancée dans une espèce d'entreprise autobiographique qui m'a conduit à écrire et à publier des textes où je pouvais évoluer et expérimenter certaines choses inaccessibles autrement. Mais c'était loin d'être suffisant. Il fallait aussi trouver les moyens d'entraîner le monde dans cette fiction, car il ne s'agissait pas juste d'accommoder le devenir de ma petite personne pour qu'il soit plus attrayant, il fallait aussi travailler à changer la chose dont il est question, la maladie de Huntington elle-même, qui, à partir du moment où j'ai commencé à vaincre ma peur, panique, mon dégoût, et pu l'observer de plus près, s'est avérée pleine de non-savoir. Huntington, lorsqu'on la considère non plus seulement depuis les définitions médicales, mais depuis les expériences que l'on en a, loin d'être cette espèce de détérioration génétiquement annoncée, a en réalité une consistance pleine de trous et d'énigmes. C'est un univers mystérieux qu'il devenait nécessaire d'explorer différemment. Cela constituait en soi un programme passionnant, mais bien trop ambitieux pour être porté par une seule personne. D'autant qu'à ce moment-là, je craignais d'être la seule à considérer les choses ainsi. Un programme de travail de cette envergure a-t-il une raison d'être s'il ne concerne qu'une seule personne ? Après le test, j'avais écrit un texte très en colère vis-à-vis de la médecine, qui était en train de me transformer en ce que Toby Nathan appellerait un quiconque. puisque la médecine affirme que quiconque est touché par Huntington est certain de devenir dégénéré, dément, gesticulant et violent, sans rien comprendre à ce qui lui arrive, j'étais condamnée à devenir ce quiconque-là. Et cette perspective me rendait malade avant même que je développe réellement Huntington. Ce texte s'achevait par une série de constats d'impuissance. J'avais cherché autour de moi s'il existait des personnes concernées, désireuses de remettre en question cette histoire, mais je n'en avais pas trouvé. Je terminais par une espèce de triste évidence. Il faudrait un collectif de personnes concernées pour travailler ensemble à cette histoire alternative de Huntington. Or, un collectif, ça ne se décrète pas. J'étais coincée. Un ami à qui j'avais envoyé ce texte pour avoir son avis l'a envoyé à la philosophe Isabelle Stengers, qui m'a écrit pour me dire ce qu'elle en pensait. Alors, il y a beaucoup de choses à lire, mais je vais vous la lire. Donc, ça date de 2006. La question du collectif à créer, cela ne se décrète pas, mais cela peut se dire en termes de nécessité immanente, de faire à faire ou d'œuvre à faire en réponse à l'énigme. Étienne Souriot campe le créateur comme pris par l'énigme du sphinx, devine où tu seras dévoré. Sachant que le sphinx ne connaît pas la solution de l'énigme, il est l'opérateur de la situation questionnante. Donc peut-être que tu as raison, que cela ne se décrète pas, mais cela peut être fabulé, appelé. D'autant que cela peut te permettre de pardonner aux médecins, de les camper comme ayant vitalement besoin d'un tel collectif. Parce que où trouverait-il la force de fabriquer une réponse à une situation mise en effet sous le signe du quiconque ? S'il pouvait être nourri, s'il cessait d'être écrasé, s'il pouvait parler de tels collectifs qui sont aussi des lieux d'initiation, où on sait quelque chose de ce qui doit être fait, ils pourraient, peut-être, fabriquer leurs propres paroles, non en mime, mais en contrepoint. C'est lorsque tu parles du collectif que quelque chose comme de la joie, de la vie, passe dans ton texte. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Et c'est peut-être trop précieux pour ne pas se demander comment accueillir, nourrir, accepter que ce n'est pas de l'ethnopsie appliquée, mais que tu as été, très précisément, catapulté dans une situation où ce qui t'intéressait en ethnopsie t'arrive à toi, un être qu'il s'agit de savoir nommer t'a requis, et je ne suis pas sûre qu'il s'agisse d'un destin. Parfois, je pense à la nouvelle de Borges, la loterie de Babylone. Ou, si c'est un destin, c'est une question aussi. Ce sera donc ça, mais le sens du ça reste indéterminé. Je t'embrasse très fort, Isabelle. J'ai mis 5 années à savoir quoi faire de cette lettre. Concernant l'affaire de l'être qu'il s'agit de savoir nommer et qui m'aurait requis, j'ai mis en réalité quasiment 8 années avant de commencer à en faire quelque chose. J'y reviendrai plus tard. Concernant le collectif qui peut être fabulé, appelé, ce n'est pas moi qui ai trouvé quoi en faire. Ça m'a trouvé. Ou plus exactement, 2 personnes m'ont trouvé pour me montrer quoi en faire. Il y a d'abord eu le réalisateur Fabrizio Terranova, qui m'a initié à une espèce de domaine de recherche et de création fabuleusement fertile qu'il était en train de découvrir ou d'instaurer, qui s'appelle la narration spéculative, inspirée par les travaux de la philosophe Donna Haraway. Et puis il y a eu mon amie Valérie Piet, ici présente, qui est spécialiste de la façon dont les mondes artistiques, culturels, scientifiques et politiques peuvent travailler ensemble pour obtenir plus d'intelligence et de cœur à l'ouvrage, et qui dirigeait à l'époque le programme d'expérimentation en art et politique à Sciences Po. C'est Valérie Piet qui a débloqué cette affaire de collectif qui n'existait pas et qui devait donc être instauré, en me proposant de prendre au pied de la lettre la nécessité d'exploration d'Huntington, tel un mystère, une espèce de planète en partie inconnue. Elle m'a dit « Et si on se lançait ?» Et si on constituait une équipe d'explorateurs pour se lancer avec nous ? Ainsi est né Ding Dang Dong, institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington, qui est né en 2012. Ding Dang Dong est un institut à la fois fabulé et tout à fait réel, qui a pignon sur rue dans le monde du web, qui réunit une équipe d'une 15aine de philosophes, d'historiens et d'artistes que le travail de reprise à nouveau frais de cette maladie intéresse fondamentalement. C'est un collectif qui s'est fondé pour gagner le pari suivant. La maladie d'Huntington est une occasion pour faire pousser de la pensée. Ding Dang Dong a été créé pour engager un certain nombre d'enquêtes sur la façon dont les gens de Huntington, que nous appelons les Huntingtoniens, créent leur propre manière de vivre cette maladie. Un travail pour révéler et attiser les forces et les inventions discrètes, quasi invisibles, déployées par ces personnes. Pour y parvenir, nous ne lésinons pas sur les instruments élaborés sur mesure pour fabriquer avec les usagers de cette maladie ces savoirs que nous estimons pertinents. À Ding Dang Dong, nous travaillons à la fois ensemble et séparément. Chacun est concentré sur un chantier distinct, une dizaine en tout, qui vont de la danse pour explorer les aspects choréiques de la maladie, avec Anne Colo, à des portraits d'univers de malades réalisés en peinture et en écriture avec Alexandra Compatissier, qui bientôt sera dessinée aussi sur ce dessin, sans oublier les affaires de terrain relatives au savoir expérientiel des malades, qui nous prend énormément de temps, avec Jocelyn Géandel, Valérie Pillet, Stéphanie Soudrin, qui a été une des premières à nous aider à faire cela. Questionnement suscité par le test présymptomatique lui-même avec Catherine Sojou, et puis les problématiques de clandestinité qui forment un département à part à Ding Dang Dong, et puis sans oublier la forme de l'ensemble, l'esthétique de notre maison qui importe tout autant que le fond, grâce au travail de Sophie Toporkov. Et les problématiques passionnantes de méthodologie auxquelles nous engage sans relâche la combinaison de tous ces travaux. Ça, c'est le travail plutôt d'Isabelle Stengers et de Vinciane Després. Moi qui avais jusque-là une peur panique de cette maladie, je me suis mise à sillonner les terres huntingtoniennes dans tous les sens, à rencontrer des malades, leurs familles, en écrivant tout du long un journal, qui a été lu par l'ensemble du collectif au fur et à mesure. Je n'étais plus seule du tout. Isabelle Stengers avait raison. Elle est devenue d'ailleurs la marraine du collectif entre-temps. Peu à peu, nous avons posté des notes tirées de ces voyages sur notre site. Nous avons créé notre propre maison d'édition et avons publié en 2013 un premier livre, Le Manifeste de Ding Dang Dong, qui est une reprise de ce témoignage très en colère vis-à-vis du protocole de test que j'avais écrit des années auparavant, mais qui, tout en gardant cette colère intacte, formule cette fois les clauses d'une alliance possible avec la médecine. D'ailleurs, on a un médecin aussi parmi nous, c'est Dr Youssouf, là, qui est neurologue. Car comme l'a remarqué Isabelle dès le début, les médecins de Huntington sont tout autant en difficulté que nous. À eux aussi, la maladie pose un problème excessivement douloureux et apparemment insoluble, celui d'être doté d'un savoir, avec le test génétique, sans pouvoir thérapeutique. Cette situation dépasse en fait tous les acteurs, qu'ils soient médecins ou malades. Pour la promotion du manifeste, j'ai raconté cette histoire à la radio, à la télé, comme un appât, une amorce. Et très vite, en quelques mois, ça marche, ça mousse. On reçoit des centaines de mails de personnes concernées qui nous racontent à leur tour leur histoire. Chemin faisant, les énigmes huntingtoniennes ne se résolvent pas spontanément. Au contraire, elles prolifèrent. Et la multiplication de ces énigmes est une contre-voie extraordinaire à l'étouffement du boa constrictor et au piège du quiconque. Par exemple, un jour, un homme que j'appellerai Monsieur H, la soixantaine, en stade avancé de la maladie, m'a dit ceci. Tu dis que ce que je suis en train de vivre est une expérience. C'est vrai, mais je te préviens, il n'existe pas de mots pour décrire cette expérience. Cette phrase a déclenché une espèce d'obsession qui n'a cessé depuis de m'animer et d'animer Ding Dang Dong. Ce qu'éprouvent les malades de Huntington est à peu près inexprimable. Pas seulement parce que lors des stades avancés, ils ont toutes les peines du monde à parler de leur vécu, ce vécu est tout autant difficile à exprimer pour les personnes qui sont au tout début de la maladie. Pourtant, il se passe au moment des débuts bien des mouvements intérieurs, puissants et douloureux, qu'il est crucial de parvenir à bien raconter. C'est pour travailler, entre autres, à ce mystère de la langue huntingtonienne que cette année, Ding Dang Dong et moi, nous installons à Kiasma un petit laboratoire semi-clandestin, expérimental, où il s'agira d'essayer d'approcher les expériences de Huntington avec des outils différents que d'habitude, afin d'essayer de constituer un vocabulaire qui puisse nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes. Car le langage médical qui est utilisé à l'égard des Huntingtoniens nous paraît souvent manquer de finesse vis-à-vis de ce qui nous arrive, de ce que nous ressentons. Le lexique médical va de pair avec des échelles psychocognitives qui fonctionnent comme des moules, transformant toute expérience en du déjà connu. Dépression, angoisse par exemple. Or, d'après les cliniciens eux-mêmes, ces catégories sont bien trop grossières pour rendre compte des désordres très particuliers qui agitent les malades. Ce n'est pas tant que ces catégories seraient vraies ou fausses, elles sont tout simplement trop grosses. C'est le genre de problème dont nous raffolons à Ding Dang Dong, parce qu'il correspond à des ouvertures possibles. Il y a de la latitude et du cœur à l'ouvrage face à cette absence qu'il ne tient qu'à nous d'essayer de peupler. Il faut juste s'autoriser à s'y mettre. D'autant que le vécu des Huntingtoniens est aussi une fiction, dans le sens d'imaginer, façonner, créer, qui constitue le socle étymologique de ce mot, du mot fiction. Mettre un micro sous le nez gigotant des Huntingtoniens en leur demandant « Que ressentez-vous ?» ne marche pas le plus souvent. Se pose alors la question de l'équipement. Cette question est merveilleuse, car ultra-expérimentale, en même temps qu'ultra-poétique. Il faut inventer à la fois des capteurs et des mots, ou d'autres choses encore que des mots, pour véhiculer ce qui sera capté. Et peut-être qu'au bout, il n'y aura rien ou pas grand-chose. Mais au moins, on n'aura pas préjugé ce vide avant de parcourir sérieusement, joyeusement, les virtualités que contient cette situation. Alors, c'est un petit peu compliqué à suivre, mais c'est un point important. Ding Dang Dong est le vaisseau d'exploration qui me permet de circuler dans le réel, mais aussi de triturer ce réel, d'agir sur lui, et d'écrire en cours de route des espèces de compte-rendus de tous ces cheminements. Ding Dang Dong est mon instrument de travail en même temps que mon véhicule. Et je suis l'un des instruments de Ding Dang Dong en même temps que son véhicule. Tout cet agencement me protège, me nourrit, me vitalise parce qu'il fabrique autour de Huntington une nouvelle atmosphère non seulement respirable, mais enrichie et dynamique, capable de générer elle-même de nouveaux agencements. Autrement dit, cet agencement me soigne. Et puis sans lui, je n'aurais jamais pu me lancer en solo comme je suis en train de le faire avec le roman que j'ai commencé à écrire depuis quelque temps, ne serait-ce que pour avoir accès à la matière première qui constitue l'une de ses nourritures principales. J'espère que vous comprendrez maintenant, mieux qu'au début, pourquoi je ne pouvais commencer à évoquer ce roman, qui est l'objet principal de ma résidence à Kiasma, sans parler des conditions très particulières d'existence de ce texte. Maintenant que ceci est posé, on peut en venir au roman en question. J'ai donc entrepris d'écrire sur ma condition de mutante, une espèce de saga, qui tente d'instruire certaines pistes qu'il m'est impossible d'envisager d'aborder autrement que de manière romanesque. Son titre de travail, mais qui restera probablement jusqu'au bout celui-là, est Mutando, un mot latin pour dire en mutant, tandis que je suis en train de muter. La source des pistes que je souhaite explorer grâce à ce roman se trouve dans le renversement vertigineux proposé par Isabelle lorsqu'elle m'a écrit dans sa lettre cette fameuse phrase. Un être qu'il s'agit de savoir nommer t'a requis, et je ne suis pas sûre qu'il s'agisse d'un destin. Le projet Mutando peut être résumé en cette seule question. Et si j'entreprenais de faire connaissance avec cet être ? Étant entendu qu'il ne s'agit ni d'une confrontation ni d'un combat, si cet être et moi nous sommes voués à commercer ensemble, si je suis son moyen de transport dans le monde, si notre alliance détermine mon devenir, alors ce n'est pas une bataille qui se prépare, mais bien une rencontre, dans le sens amoureux du terme. Et si bien sûr je pense aux noces dont parlent Deleuze et Guattari pour qualifier certains phénomènes d'entrecapture interrègne. La tendresse, comme posture générale d'accueil de cette histoire, ne relève pas d'une nature ou d'une personnalité a priori dont on serait ou pas doté. Au contraire, cette tendresse nécessite aussi tout un équipement pour s'instaurer, car le message qui nous est formulé dès le départ et tout du long, c'est que Huntington est un ennemi intérieur contre lequel on doit se battre. Se battre contre la maladie est le message majoritaire encore aujourd'hui, que ce soit pour la maladie d'Huntington ou pour toutes les autres maladies d'ailleurs. Or, si ces dernières années, il y a bien quelque chose qui m'a beaucoup frappée dans nos observations, c'est que les Huntingtoniens avancés présentent soit un comportement ultra agité et énervé, ce qui correspond au seul trait souligné et relayé par la littérature médicale d'ailleurs, soit tout l'inverse. Ils deviennent des espèces de machines à câlins, des bouddhas de l'ici et maintenant, capables de s'enfoncer dans le moment présent comme peu d'assidus de la méditation peuvent prétendre y parvenir. Est-ce que cela dépend de leur personnalité de départ? Moi, je suis certaine que non. Ça dépend de leur bien-être tel qu'il est mis en œuvre par un environnement qui ne les agresse pas, c'est-à-dire qui n'agresse pas la manière dont ils sont en train de se métamorphoser, qui ne pose pas une contre-force à ce mouvement-là. Car que nous soyons malades ou non, notre premier réflexe lorsqu'on nous oppose quelque chose qui agit comme une contre-force, qui nous agresse, c'est d'agresser à notre tour. C'est pourquoi le roman s'efforcera d'être un écrin, une piste d'atterrissage pour l'être qu'il s'agit d'accueillir tendrement, et qui va en même temps m'accueillir moi. D'ailleurs, la question de savoir qui accueille qui dans cette histoire n'est pas claire, et cette ambiguïté n'est pas le signe d'un défaut de qualification de cette situation, bien au contraire. Concernant ce genre d'être, Toby Nathan m'a appris à considérer qu'être poli à leur égard signifie de leur adresser un certain nombre de questions. Qui es-tu? Quel changement dans le monde produit ton existence? Quel est ton père? Comment désigne-t-on ton ancêtre, celui à partir duquel tu déclines les générations? Quel est ton Dieu? Quelle est ta foi? Quels sont les invisibles qui t'accompagnent? Qui t'envoie jusqu'à moi? Dans quelle bouche a résonné mon nom? La dernière, pourquoi viens-tu? Et Toby Nathan ajoute ceci d'essentiel à la question du pourquoi. J'admets volontiers que tu ne saches d'emblée répondre à cette question. Accepte de la parcourir avec moi. Aide-moi à expliciter tes intentions. Cette phrase, comme celle d'Isabelle, qui est d'ailleurs à peu près synonyme, est un cahier des charges à elle toute seule qui demanderait une vie pour s'accomplir. Pour l'instant, j'essaie de prendre les choses par un nombre très limité de fils, tant ces fils-là sont potentiellement infinis. Cahier des charges du roman. Premièrement, ce que ça a fabriqué au niveau de mes propres ancêtres. Est-ce une lignée, par exemple? Ce que ça fabriquera au niveau de mon futur. Et la nature de la mutation, sa fonction, sa raison d'être. Ces dernières années, j'ai déjà pas mal avancé sur les points 1 et 2. Mais le point numéro 3 va me demander sans doute encore plusieurs années de travail. Concernant ce fameux point numéro 3, j'ai plusieurs casseroles sur le feu. Mais celle qui m'accapare le plus ces temps-ci concerne les origines phylogénétiques de la mutation Huntington, autrement dit son histoire au regard de l'évolution des espèces. Non pas que je souhaite faire œuvre de naturaliste ou de vulgarisation scientifique, il ne s'agit pas de rabattre cet être qu'il s'agit de nommer dans le registre de la science, ou plus exactement, de ne donner à la mutation dont il est question uniquement un sens génétique. Mais il se trouve que cette histoire est passionnante en tant que telle. En ce moment même, à Milan, dans un laboratoire de recherche fondamentale en neurosciences, le professeur Elena Cattaneo et son équipe explorent l'étendue extraordinaire de notre mutation dont elle a révélé qu'elle a émergé dès les toutes premières formes du vivant il y a environ 800 millions d'années et qu'elle n'a cessé ensuite de se renforcer. Cataneo est la seule chercheuse à s'intéresser à cette mutation du point de vue de sa nécessité. Tout le monde possède un peu de Huntington dans ses gènes. Or, si on supprime l'expression de cette mutation dans n'importe quel embryon, souris, éléphant, humain, il ne peut même pas atteindre le stade du fœtus. Son système nerveux central ne peut tout simplement pas se développer. La protéine pour laquelle la mutation Huntington code, qui a été baptisée Huntington, est donc indispensable à toutes les espèces qui possèdent un système nerveux, parce qu'elle permet d'assurer la communication des cellules entre elles. Ce n'est pas un détail. Cataneo explique que lors de l'évolution, la courbe de la mutation Huntington a suivi la courbe de l'évolution du système nerveux des espèces. Plus ce système est complexe et développé, plus la mutation s'intensifie, le primate étant celui qui en a le plus avec la médaille d'or aux humains. Mais alors pourquoi parmi ces humains, certains en ont plus que d'autres ? Et pourquoi parmi ces derniers, certains en ont trop, ce qui déclenche la maladie? Pourquoi l'évolution ne s'est-elle pas arrêtée au-dessous du seuil quantitatif qui rend malade ceux qui ont trop muté? À ce sujet, Cataneo est encore prudente dans ses publications, mais dans ses conférences et dans les conversations privées, elle va bien plus loin, disant qu'il est possible de faire l'hypothèse que les actuels porteurs de la maladie d'Huntington seraient les expérimentateurs, et ça c'est son mot à elle, d'un système cellulaire qui améliorerait la socialisation des cellules au cœur de notre système cérébral, qui, en ne cessant de se développer, en a eu de plus en plus besoin. Un système qui n'a pas été éradiqué par l'évolution, parce qu'il est bénéfique pour tout le monde. En mars-avril dernier, grâce à une bourse de l'Institut français, je suis allée passer un peu plus d'un mois en immersion complète dans ce laboratoire à Milan. J'y ai interviewé la plupart des chercheurs et observé bien des expérimentations. J'y ai aussi rencontré les souris huntingtoniennes que l'on crée génétiquement modifiées pour servir à ces expériences. Pour faciliter le travail des chercheurs, ces souris portent une version de notre mutation considérablement intensifiée afin de déclarer la maladie le plus tôt possible. Ce sont donc des créatures super huntingtoniennes. J'y ai vu des grandes sœurs, quasi des saintes. Je les ai remerciées de faire ce travail pour nous autres et j'ai incité l'équipe des chercheurs à faire de même lorsqu'ils prononcent leurs conférences dans les congrès scientifiques. Ils ont noté l'idée sans hausser les épaules, on verra bien ce qu'ils en font. Ces temps-ci, l'équipe milanaise est en pleine ébullition parce qu'elle est en train de terminer de compiler une quantité impressionnante de données provenant d'une infinité d'espèces. Dans leur congélateur, il y a des bouts de porc-épic, de chauves-souris, d'oiseaux.
Ça, c'est du porc-épic, ça.
D'insectes, de poissons, une véritable arche de Noé surgelée. Ils tiennent à produire leurs échantillons eux-mêmes à partir de ces prélèvements, séquençant fébrilement plusieurs milliers d'échantillons afin de mettre à jour la façon dont la mutation s'est intensifiée à travers l'évolution, cette fois sur une très grande échelle. Ils ne visent pas moins qu'une publication dans Science. J'ai longtemps cru que les plantes avaient aussi un peu de Huntington en elles. Je leur ai posé la question, ce qui les a bien fait rire. Mais enfin, Alice, les plantes n'ont pas de système nerveux. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris leur réponse. C'est comme ça. Parfois, je les comprends complètement, on est dans le même bateau, et puis parfois, j'arrive pas du tout à les suivre. L'inverse est tout aussi fréquent, et alors c'est eux qui n'arrivent pas à suivre le fil de mes intérêts et de mes raisonnements. Dans tous les cas, Elena Cataneo, à qui je n'ai jamais caché que j'étais parmi eux pour nourrir mon roman, m'a donné carte blanche. Elle m'a dit « Ce serait vraiment très intéressant que tu tires une histoire de tout ça ». Ce qui constitue déjà en soi une belle boucle résolutoire vis-à-vis de la façon orageuse dont toute cette histoire avait démarré en termes de relations entre la science et moi. La question de savoir qui envoûte qui n'est plus de mise. Seul importe le caractère ondulant, réciproque, non despotique de nos relations. Difficile de dire aujourd'hui comment je vais m'y prendre pour écrire cette espèce d'autobiographie de mutante. Parce que je ne suis pas un auteur de science-fiction, je ne suis même pas une lectrice de romans de science-fiction, et je vais vous faire une confidence, je ne suis pas vraiment une bonne romancière non plus. Ce que je préfère écrire, ce que je sais le mieux écrire, ce ne sont pas des romans, mais deux genres qui relèvent d'un tout autre type de littérature. Le journal intime, qui chez moi en tout cas prend toujours la forme d'un journal d'enquête, et la lettre d'amour. Alors, comme on dit dans ces cas-là, la suite au prochain numéro.
Je voulais en savoir un peu plus sur le travail chorégraphique qui était effectué, ça m'intrigue beaucoup.
En fait, au sein de Ding Dang Dong, on a ouvert plusieurs départements en fonction de nos intérêts, nos savoir-faire ou de nos absences de savoir-faire. Et quand Émilie et Valérie m'ont proposé de rejoindre le collectif, il y avait cette idée d'enquête et d'énigme autour de la forme choréique que produit la maladie, puisque cette maladie a pour particularité de déclencher des mouvements involontaires qui peuvent aller jusqu'à une très grande amplitude et jaillir de façon incessante. Et je me suis dit, c'est une très belle énigme, parce qu'en fait, cette espèce de jaillissement de mouvement permanent, si on enlève son côté très lourd aussi à porter, si on le considère du point de vue du mouvement, ça ouvrait des tas de questions, moi, qui me fascinaient. Et j'ai vraiment eu envie d'essayer de suivre ce fil-là. J'ai eu un initiateur par rapport à ça qui a été assez extraordinaire, qui est un monsieur qu'on a rencontré avec pas forcément tout le collectif, mais notamment avec Valérie, et Émilie aussi l'a connu, qui était un patient à la Pitié-Salpêtrière, en fait, et qui participait à un atelier de danse ouvert par deux chorégraphes, Julie Salg et Philippe Scheer, donc qui mènent des ateliers au long cours avec des gens malades et puis des accompagnants de ces malades. Et donc, très vite, ils m'ont parlé de cet homme-là qui avait pour particularité de refuser de prendre tout traitement, enfin tout médicament qui lisserait en fait cette production de mouvement, et qui était une personnalité, en fait, quand on l'a rencontré, très... très très étonnante et très attachante, parce que extrêmement rebelle. Enfin, pour moi, c'était une espèce de punk qui affirmait très haut et fort, d'une certaine façon, sa capacité de mouvement, cette production de mouvement, et qui du coup vivait de façon complètement autonome avec ça, c'est-à-dire vivait chez lui. Je parle au passé parce qu'il est décédé maintenant. Et faisait du vélo, faisait sa vaisselle, et ne cessait de négocier avec cette espèce justement d'agitation permanente. Et du coup, j'ai eu envie de commencer à faire un portrait de cet homme-là, un portrait chorégraphique, en me demandant un peu comment prendre cette affaire-là, parce que c'est tellement saisissant et tellement foisonnant que voilà. Donc j'ai voulu. Comme par ailleurs, je travaille à partir d'un système d'écriture du mouvement, un système d'écriture de la danse qui s'appelle la notation Laban, qui est vraiment une forme de décryptage, en fait, avec une certaine grille d'approche de mouvement. Je me suis dit, ben voilà, j'ai envie d'enquêter à partir aussi de cet outil-là. Et du coup, j'ai entrepris de le filmer chez lui. On est allé le voir avec Valérie, donc chez lui, et à partir de ce film où je l'ai filmé à peu près pendant une heure alors qu'il vaquait à ses occupations, donc de prélever une séquence de ça, et puis de vraiment décider, tellement j'étais fascinée et impressionnée par cette production et puis sa capacité à produire du mouvement, où on ne sait plus trop en fait si c'est la maladie ou si c'est de la danse, hein, puisque lui il dit cette maladie me fait danser et j'en suis fière. D'apprendre de lui et de le considérer comme un maître à danser, et en fait d'apprendre vraiment une séquence de mouvements, ce qui est d'une complexité extraordinaire, parce qu'en fait c'est des coordinations totalement inédites, totalement différentes de ce que je pouvais connaître, et c'est totalement à la fois polyphonique, parce que tout bouge, tout, je pense, depuis la musculature profonde jusqu'à la musculature périphérique, avec des coordinations de flexion et d'extension. Enfin, c'est-à-dire quand le bras, par exemple, quand le bras va s'allonger, la main va se, les doigts vont se plier. Donc, ce qui fait que tous les gestes, de, par exemple, d'attraper quelque chose, sont complètement contrariés. C'est-à-dire, il va se passer ça ou au contraire, il va se passer ça. Enfin, c'est très, c'est extrêmement imprévisible. Et du coup, voilà, d'apprendre de ces coordinations complètement nouvelles. Et puis, ça s'est après transformé en un pas de deux, enfin une espèce de duo pour un projet de spectacle. Mais ça, peut-être qu'on, enfin, puis je veux pas monopoliser la soirée avec l'histoire de ce travail-là. Mais voilà, enfin, et du coup, de travailler à partir de cette ressource que je suis loin d'avoir fini d'épuiser. Voilà.
Bon, je voulais te dire que j'étais frappé par la grâce, la tienne, si tu me permets. Et puis voilà, il y a quelque chose qui m'a beaucoup. Tu m'as expliqué des choses, mais là, ça m'a frappé particulièrement. C'est la question de la mutation, quoi, parce que la mutation, ça appelle à des mondes, quoi, qui sont pas là, quoi. Et c'est ça qui est absolument passionnant, quoi. C'est quel monde va émerger, quoi. Et donc quel monde on s'embarque déjà en écoutant, et on ne sait pas. Il faut savoir, à un moment donné, on doit savoir des choses, quoi. Donc c'est bien qu'il y ait une suite, mais moi ça m'a ébloui. Voilà, tenez à les dire.
Moi, je vais peut-être rajouter un petit détail, étant pas totalement familier avec tout ceci, mais un petit peu quand même. À la marge, donc en me remettant à l'extérieur. Moi, ce qui me semble être un défi intéressant, déjà dire que c'est vrai que depuis quelque temps, on est amené ici à tenter, à établir des dialogues avec des champs de pratiques, nous, en tant qu'acteurs de l'art et de la culture, avec des champs de pratiques qui sont ceux de la maladie ou ceux du champ psychiatrique, etc. Je voulais aussi souligner qu'il y avait un intérêt particulier pour nous quant à des propositions un peu inédites de méthodes sur la question collective, qui sont, à titre personnel en tout cas, un domaine dans lequel je trouve qu'en dans le champ de l'art, on n'a absolument rien exploré et qu'on est dans une situation complètement incroyablement éloignée de la capacité à réfléchir collectivement, chose qui, comme c'est mon métier, m'intrigue, m'inquiète. Mais, et donc c'est vrai que c'est aussi l'invitation qui a été faite au collectif, c'est aussi pour continuer, nous, de réfléchir à peut-être d'autres manières de travailler. Moi, je voulais dire que j'avais été assez impressionné dans le collectif Deng Dong par cette capacité du travail collectif, surtout parce qu'on va sûrement en parler un petit peu là, il est rapporté notamment à la production de formes artistiques, ce qui est extrêmement exigeant et extrêmement à la fois vivifiant, excitant, mais extrêmement, comment dire, neuf. Je sais qu'il y a un spectacle, il y a des formes chorégraphiques. Moi, il se trouve que voilà, j'ai prêté ma présence à une web série, donc voilà, je suis donc le docteur Marbeuf. Mais du coup, je trouvais ça d'autant plus intéressant que dans le saut qui est proposé par le projet d'Alice dans le projet, il y a un saut dans lequel nous on est invités aussi à notre manière à prendre le pas, parce que les formes qui vont être convoquées pour essayer de faire cette exploration là pose aussi des questions de changement de régime des formes habituelles. En tout cas, moi, en collaborant très à la marge avec vous, j'ai fait une expérience d'une pratique qui n'est absolument pas la mienne. J'avais jamais pensé, même pour le dire simplement, accepté de travailler dans ce type de contexte-là, où, pour le dire simplement, il y a un collectif de personnes qui font des retours sur une forme et on doit en tenir compte. Et ça, bon, en général, on fait de l'art plutôt pour éviter ce genre de situation. Il faut quand même dire la vérité. Mais à la fois, moi, je l'ai d'autant plus accepté comme dire que j'ai l'impression qu'on est un peu perdu dans ce pourquoi ou comment on fait de l'art aujourd'hui. Et que, voilà, je trouve qu'il y a une aventure à plein d'échelles que propose en tout cas le collectif, qui est à la fois l'exploration faite d'Huntington, mais aussi l'exploration de nos manières de faire. Et de ce point de vue-là, je trouve que Il y a plein de niveaux des mutations qui s'opèrent, et c'est là que je trouve que c'est assez précieux. Voilà.
Il y a beaucoup à dire, mais disons que c'est vrai. Enfin, je reviendrai peut-être deux minutes sur ce que Alice a mentionné rapidement sur le travail de Fabrizio Terranova, parce que je pense quand même que c'est lui qui nous a mis sur une piste, en tout cas possible, de travail et d'articulation entre les arts et les sciences et la société. Et ici, bon, bah, particulièrement le champ de la santé, les médecins, les soignants, etc. Mais c'est vrai que c'était sur l'insistance de Fabricio à penser la capacité aussi de l'art à agir sur le réel et sur le présent, tout en fabulant des futurs possibles ou désirables, ou retravaillant la fabulation du passé, mais tout ça pour agir sur maintenant. C'est lui, en fait, qui nous a quand même, je pense, un peu permis, enfin, qui nous a... on s'est senti autorisés à fabuler l'Institut de coproduction de savoir de la maladie de Huntington, puisque ce n'est pas un institut au sens statutaire. Mais je pense que c'est vraiment lui qui nous a autorisés déjà d'emblée à fabuler, à faire exister quelque chose qui n'existait pas, mais sans aucune, aucun scrupule finalement, en se posant pas cette question-là, mais en le prenant très au sérieux. Donc c'est ça la différence, c'est pas fabuler pour fabuler ou juste imaginer quelque chose pour nous faire plaisir, c'est du coup de le prendre au sérieux et de le faire, donc de le mettre en acte. Et du coup, on n'a pas cessé, je pense, après, d'activer cette notion-là au sein du collectif et des productions artistiques, en tout cas pour moi. Et donc, bon, je passerai la parole ensuite, puisqu'il y a plusieurs artistes aujourd'hui présents là. Mais on a effectivement créé notamment un spectacle qui reprend une partie de nos recherches, et qui nous semblait important, pourquoi faire un spectacle, effectivement, enfin, c'est une bonne question, mais je pense que pour nous c'était à la fois parce qu'il y a des expériences, comme la danse, c'est peut-être le plus évident, mais il y a des expériences qu'on ne peut pas vivre autrement que, donc là c'est la forme d'expression qui impose finalement le format. Je pense qu'on peut expliquer ce que fait Anne, mais je pense que c'est pas la même expérience de le voir et de faire cette expérience de plateau. Et donc c'est le médium lui-même qui impose finalement mais qui est à la hauteur de l'exigence des témoignages qui nous ont été transmis par les Huntingtoniens, donc c'est aussi à partir d'eux que ça se fait, donc c'est toujours garder aussi un ancrage dans je sais pas comment dire ça autrement, un ancrage dans le réel qui nous est transmis. Et mais se permettre de le cofabriquer avec eux, et pas forcément juste de le relayer comme un passage de relais, mais de le retravailler. C'est pas juste la question de... Parce qu'au début, on a eu cette question-là aussi avec les témoignages qu'on recevait. Est-ce qu'on pouvait les publier tels quels ? Ça nous semblait pas forcément être juste. C'est quelque chose qu'on peut faire assez habituellement, mais finalement qui n'est pas dans la création. Or, on a toujours d'emblée voulu être dans la création, que ce soit artistique ou scientifique. Je pense que c'est un petit peu ça aussi le point, c'est de ne pas forcément juste se faire le relais, mais de co-créer. Mais peut-être que je passe la parole rapidement à Stéphanie ou Alexandra, si vous voulez dire quelque chose. Ouais. Non. Justin, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu...
Je vais peut-être juste présenter quand même le travail que font... qu'a fait Alexandra. Une des difficultés aussi, enfin, vous avez vu hein, les images dans les documentaires, etc., c'est ce désenchantement absolu, a priori, pour commencer, dès qu'il s'agit d'Huntington. Et ce qu'on a aussi voulu faire très rapidement, c'était de regarder avec des yeux différents les malades qu'on était voués à rencontrer. Et ça a été, par exemple, le travail d'Alexandra Compatissier, de peindre l'univers d'une malade, pas de faire le portrait de cette malade au sens classique, en pied, personnel du terme, mais le portrait de son univers et la façon dont elle fabriquait de l'harmonie avec sa propre atmosphère, en fait. Et du coup, c'est un portrait complètement... à la fois aussi parce qu'on travaille sur la délicatesse, c'est-à-dire c'est aussi tout un problème dans le bon sens du terme de faire œuvre de délicatesse vis-à-vis des malades. Et là, par exemple, Alexandra a su le faire, quoi, l'a fait de telle manière que Anne l'a fait avec la danse avec Monsieur D, avec Anouk. Alexandra a fait travailler à approcher cet univers extrêmement subtil et en même temps totalement consistant avec de la créativité dans cette atmosphère-là par cette personne-là, Anouk, dans un livre qu'on a publié. Et puis Stéphanie Soudrin était vraiment... Ah bah oui. J'y pense parce que on est en train d'en parler, mais en fait, avant tout, Anouk était est une amie, donc je la connais depuis très longtemps, depuis pratiquement 30 ans, et je pense que le livre sur son sur son intimité aurait été la même chose qu'elle soit malade ou pas. C'est la même chose. C'est un choix.
Voilà, puis Stéphanie, tu as été à l'origine de... C'est très intéressant cette histoire du témoignage parce que c'était une des premières choses. On s'est dit, il faut qu'on récolte des témoignages. Et en fait, c'était un de nos premiers chantiers où, en effet, il ne s'agissait absolument pas juste de demander aux gens, racontez votre histoire et puis c'est bon. C'était, qu'est-ce qui fait savoir, finalement? Qu'est-ce qui fabrique? Qu'est-ce qui fait que une chose donnée fait savoir? Et ce qu'on s'est vite aperçu, c'est que ce qui était intéressant, c'était la façon dont les gens pouvaient raconter comment ils bougeaient eux-mêmes dans cette vie qui est la leur avec la maladie, que ce soit pour eux-mêmes en tant que malades ou en tant que proches, parce que dans cette histoire, les Huntingtoniens, c'est pas seulement les malades, c'est les proches aussi. Mais c'était compliqué de comme c'était une démarche très différente de d'habitude, les gens sont habitués à toujours produire le même genre de témoignage, qui est souvent extrêmement plombant parce que c'est vraiment de l'ordre de la plainte uniquement. Et ce qui nous intéressait, c'était faire un pas de côté, voir comment on peut se saisir de ce qui nous arrive et pour commencer à bouger vis-à-vis de ce qui nous arrive. C'est ça qui nous intéressait. Et toi, Stéphanie, t'as lancé des petites perches comme ça et t'as commencé à faire des rencontres. C'est pas forcément ton médium parce que tu es peintre et dessinatrice et artiste, mais ton apport dans ce collectif, ça a été d'amorcer les premiers échanges avec ces personnes, et dont la première qui s'appelle Angèle sur le site, au départ voulait absolument pas raconter son histoire, et finalement, à force d'emails et de conversations entre vous, a fini par produire un témoignage de 80 pages qui est sur le site et qui était notre premier témoignage.
Je voulais encore reprendre la parole par rapport à un autre truc, c'est que ce qui me frappe aussi, c'est que ça met très fort, pour moi, très fort à jour. Moi, je m'intéresse depuis longtemps aux questions qu'on peut appeler d'autosupport, les histoires de groupe d'autosupport, tout ça. Bon. Et c'est que ça met à jour d'une façon patente. C'est la spécification singulière à chaque fois des modes d'existence d'un phénomène qu'on fait vivre autrement. Quoi. Comment on recrée un nouveau mode d'existence qui, forcément, est aussi un mode d'existence qui se heurte à des choses, quoi. Dans cette pensée un peu de l'importance qu'on peut donner à l'autosupport, on pourrait tenter un peu de rendre un peu, comment dire, isomorphe à plusieurs formes. Il apparaît clairement que ce n'est pas possible, quoi. À chaque fois, il y a des régimes d'existence singuliers et des régimes politiques singuliers aussi, des régimes politiques, parce qu'on se heurte à des dispositifs. On peut fabriquer des dispositifs pour faciliter l'émergence de nouveaux mondes, de nouveaux modes d'existence, tout ça. Mais ils sont en rapport aussi à d'autres dispositifs, disons, d'un point de vue politique, on pourrait dire qu'il y a des dispositifs, il y a quelque chose de politique dans le fait de faire exister autrement, et ça se passe contre des dispositifs qu'on pourrait appeler policiers, entre guillemets, parce qu'il y a... Il faut d'abord se désidentifier, se désidentifier à ce que là où tu es assigné, hein, que ce soit la maladie d'Huntington, que ce soit un tox qui est usager de drogue, que ce soit quelqu'un qui entend deux voix et qui ne veut plus être psychotique, qui veut être autre chose, un entendeur de voix par exemple, etc., etc. Donc à chaque fois, il y a un processus de désidentification, quoi. Mais il est tellement singulier qu'il est difficile de voir comment faire cohabiter toutes ces histoires-là, quoi. Et il faudra, à mon avis, il faudra bien trouver les moyens, mais de telle sorte qu'une histoire n'écrase pas l'autre, quoi. Parce qu'il y a des formes différentes de brutalité policière. Ce que vit un toxico par rapport aux polices de l'assignation identitaire n'est pas la même chose que ce que vit un entendeur de voix, quoique, avec une certaine histoire de la psychiatrie, etc. Mais tu vois ce que vous voyez, il y a quelque chose là qui se joue et qui introduit vraiment radicalement du pluralisme, quoi. Et c'est ça que je trouve aussi très intéressant, quoi. D'un point de vue politique, un pluralisme dans la politique, quoi.
Ben oui, mais la politique est au cœur de notre projet dans ce sens-là exactement. C'est-à-dire vraiment la question du situé. C'est-à-dire on parle pas en général. Assez souvent maintenant, parce que ça fait 3 ans qu'on existe, on nous demande parfois de ce que vous pourriez faire ça aussi pour d'autres pathologies, etc. Et à chaque fois, non, parce que c'est produire de la pensée à partir de cette situation-là, c'est ce pourquoi on travaille très précisément chaque jour et qui nous demande d'ailleurs un travail constant. Quand Olivier parlait de ce travail du collectif, on se réunit, on est en 17, mais on se réunit deux fois par an, trois jours, pour vraiment travailler justement à recadrer. Parce qu'on a tendance, au bout d'un moment, à se dire, bah, tiens, ça y est, on a trouvé un truc, là, ça y est, même sans faire exprès, ça peut rouler. Ben non, c'est un empêcheur de penser en rond en permanence, cette situation de devoir faire désobéir, vraiment, pas juste pour... se plaindre ou crier un bon coup, mais vraiment faire bouger l'histoire naturelle, finalement, d'un truc pareil. C'est ça, en fait, qu'on vise pas moins, en fait. Donc. Et on s'y remet. Alors, évidemment, on a des méthodologistes avec nous qui régulièrement, hein, avec Jocelyn et Valérie et moi, on prépare des belles choses, on est sûr de notre coup, et là, tout est cassé, il faut tout recommencer, c'est systématique, mais c'est comme ça. Et le spectacle a été recomposé de fond en comble. La deuxième capsule du docteur Marbeuf, ici présent, ça va faire quoi, deux fois maintenant, trois fois
que... C'est la première fois de ma vie que je recommence.
Jamais, je vais rendre du monde. C'est ça l'épreuve du collectif. Hein. C'est vraiment... D'emblée, en fait, il y avait quelque chose aussi, on avait dit, mais il faut mettre son ego au placard, parce qu'il n'y a pas question de se dire à un moment donné, oh là là, mais tout le travail. Bon, c'est vrai, il y a des moments de découragement. Hein.
Mais à la fois, tu peux pas complètement. C'est ça l'une des problématiques de ce qu'on essaie de faire dans l'art, c'est que s'il y a pas d'ego, tu peux pas faire le travail. Donc à la fois, il faut le mettre au placard, mais si tu finis par le mettre complètement, comment dire, à la cave.
Non, pas à la cave.
Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir à quel moment tu arrives quand même à complètement réinvestir vraiment en fait quelque chose, alors qu'il passe dans un système collectif qui effectivement demande en fait un retrait de l'ego, mais il faudrait pas non plus moi j'ai toujours eu en fait le fantasme de participer à des choses de manière un peu touristique, me dire dans ma vie un jour je ferai des projets, je serai juste un élément rapporté, j'aiderais à servir les oranginas, les frites, tout ça, un espèce de militant associatif qui a aucune espèce d'implication personnelle dans ce qu'il fait, et je me rends bien compte que là c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'en fait il faut quand même apporter vraiment ce qu'on a apporté, mais avec ce passage-là dans le filtre du collectif, qui est vraiment une aventure vraiment très passionnante. Moi, je voulais reprendre ce que tu disais pour dans le même ordre d'idée, parce que quand on a discuté avec Émilie du développement de la résidence, c'est vrai qu'on s'est rendu compte de quelque chose, et moi, pour le coup, je ne l'avais pas perçu avant qu'on en parle, du moins pas comme ça, que finalement, les questions posaient très spécifiquement les nécessités pour les Huntingtoniens de ressaisir une possibilité de pouvoir eux-mêmes, comment dire, se nommer eux-mêmes, décrire un espace dans lequel ils sont eux-mêmes, être actifs sur leur situation, était en fait une question complètement centrale pour toute la société, puisque quand on en parlait avec des habitants dans la quartier populaire, parce que c'est aussi une des questions qu'on travaille ici et qui nous travaille, et se pose la même question en fait, hein, je veux dire, la question citoyenne aujourd'hui, elle est bidon, parce qu'en fait, on l'a complètement vidé d'une possibilité d'autodétermination, d'action sur son environnement, de capacité à se renommer soi-même comme les populations populaires de banlieue. Et donc, quelque part, étrangement, par un endroit extrêmement spécifique où on peut presque trouver légitime que le malade puisse retrouver un peu pied quelque part, soit en tout cas quand on est à l'extérieur, je sais qu'à l'intérieur c'est une vraie bagarre, mais j'ai presque envie de dire, c'est presque une stratégie au sens qu'en fait, pour un public plus large, le fait que des gens qui sont atteints de maladies génétiques puissent retrouver le droit d'agir, de parler pour eux-mêmes, on pourrait très vite dire oui, c'est évident, quoi. Alors qu'en fait, ils voudraient pouvoir le dire pour tout un ensemble de catégories, comme tu dis, ceux qui sont même des catégories parfois à la limite des attitudes pénales en France, ou même simplement des habitants et des citoyens de seconde catégorie. Donc moi, j'y vois aussi à travers ça un autre truc très intéressant. C'est une stratégie globale en fait pour réaffirmer à partir d'un point très spécifique une question qui est potentiellement beaucoup plus vaste. Et ça, je trouve ça vraiment très. Et je m'en suis rendu compte dans le processus de travail. C'est pas un truc que je pensais avant, quoi.
Je vois que ça a un impact au niveau des sciences humaines, mais au niveau de l'institution médicale, on vous écoute ?
Bien sûr. C'est bon ? Oui, ça fonctionne dans la mesure où au départ, comme Alice l'avait très clairement expliqué, le manifeste était un texte très en colère, et notamment en colère contre l'institution médicale et la manière dont a été délivré un résultat en l'occurrence positif. Et petit à petit, depuis la création de Ding Dang Dong, tout le monde s'est attelé, notamment par l'entremise de Katia Youssef, qui est la neurologue qui fait partie du collectif. On s'est attelé à se rapprocher du corps médical, des autres associations aussi, qui sont présentes dans le champ de la maladie de Huntington. Et tout ça a créé quelque chose qui prend vraiment très, 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 très bien forme à l'heure actuelle, notamment par ce qui s'est constitué sous forme de comité interassociatif qui se réunit deux fois par an avec le centre de référence maladie de Huntington. Et là, Ding Dang Dong est très écouté. On travaille avec les autres associations et tous les chantiers qu'on mène actuellement ou quasiment presque associent en partie le corps médical.
On a des alliés. Le centre de référence en est un. Après, je ne dirais pas que c'est si simple. Notamment parce qu'en ce moment, par exemple, on négocie justement pour la journée nationale Huntington, qui est une journée qui est organisée jusqu'à présent par les scientifiques. Normalement, dans l'objectif quand même de s'adresser aux familles, aux proches et au réseau Huntington, mais en ne proposant une façon de faire qui ne nous paraissait pas forcément nous satisfaisante de par les sujets qui étaient abordés. Et puis de la manière dont ils l'abordent aussi, bon, ça c'est un autre problème, de la façon dont les scientifiques arrivent à s'adresser de manière accessible aux personnes concernées. On essaye de ruser à chaque fois pour au moins qu'il y ait la possibilité de négocier quelque chose. Là, en l'occurrence, grâce à Alice, on a pu avoir un partenariat avec la Cité de la Santé. Donc on leur a trouvé une salle, en fait. C'est con, hein, mais on leur a trouvé une salle pour faire la journée nationale Huntington. Du coup, ils sont quand même un peu obligés maintenant de nous écouter. Parce qu'on leur donne une salle gratuite. Donc on a peut-être quand même un petit peu notre mot à dire sur le contenu de la journée. Voilà, c'est un exemple un peu là de négociation. Voilà.
Je peux juste ajouter quelque chose. Il y a aussi qu'on s'y prend. Si les relations sont souvent difficiles, c'est aussi parce qu'on s'y prend comme on s'y prend, c'est-à-dire d'un côté on négocie et on travaille à des formes diplomatiques de collaboration. Et de l'autre côté, on appelle ça chez nous la pourvocation, c'est-à-dire qu'on provoque aussi. C'est-à-dire que c'est ding-dang-dong, on ébranle. Et forcément, que les réactions à cet endroit, à ce contact-là, sont souvent, peuvent être un peu fraîches, choquées, etc. C'était notamment le cas quand au congrès de Rio. Voilà. C'était le congrès international sur la maladie qui se trouvait être à Rio. Et on a présenté la fameuse vidéo du docteur Marbeuf, qui est le médecin notre médecin fabulé, qui est un médecin très sérieux mais qui bouge, qui se met à bouger vis-à-vis de l'annonce du test génétique, parce qu'il a comme patiente quelqu'un de très, très en colère vis-à-vis de la façon dont il s'est pris avec elle. Et le fait de montrer comment pas à pas il se met à bouger, mais à son corps médical défendant, donc ça dure 20 minutes, il bouge tout petit peu, ça est énormément choqué, par exemple, les médecins. Un, qu'on fabrique un personnage de médecin, et deux, que c'était un médecin français qu'on montrait devant la communauté internationale, un médecin qui doute. Ça, c'était très, très mal, par exemple, reçu. Mais, juste, je termine après. Ce qui est important, c'est qu'on a la conviction que quand on fait comme ça, la fois d'après, le jour où ils annoncent à quelqu'un son résultat de test, il ne le fera pas de la même manière, celui qui a vu cette vidéo. Donc, c'est tout ce qui compte pour nous. C'est qu'il ne peut pas le faire de la même manière. Il est lui aussi hanté par un contre-fantôme qui le fait agir différemment. Donc, c'est aussi notre manière de faire, parfois, volontairement, un peu tonique, quoi.
Non, je trouve que c'est juste drôle qu'en fait, ils y ont vachement cru, les médecins, alors que la majorité des gens qui ont vu la vidéo ont tout de suite compris quand même qu'il y avait un décalage, qu'il y avait quelque chose. Eux, ils ont tellement flippé, je pense qu'ils y ont cru.
Qu'on avait trouvé un médecin.
Ils se sont dit, mais c'est qui ce médecin? Donc voilà, c'était juste pour l'anecdote, mais c'est vrai que ça a eu un effet assez fort. Hein. Donc, voilà, je dirais qu'on est entendu et en même temps, il y aura toujours des râleurs, mais en même temps, c'est pas parce qu'ils râlent effectivement qu'ils bougent pas. Donc on y travaille et puis on fait aussi des posters qu'on présente dans les congrès internationaux parce que le médium des scientifiques, c'est le poster. Donc, il nous arrive régulièrement avec Émilie de camper devant nos posters, attendant que quelqu'un veuille bien venir nous parler et nous demander quels sont les résultats de notre recherche.
Oui, de plus en plus.
De plus en plus, on voit que de congrès en congrès, à chaque fois, ils nous repèrent, maintenant, ils nous disent « Ah non, ça, c'est ce... »
Mais d'ailleurs, à une conférence en Italie, là, au moment où j'étais à Milan, j'ai officiellement demandé au professeur Cattaneo, devant 500 personnes, qui est donc chercheuse en neurosciences, si elle voulait bien devenir l'ambassadrice des mutants, en montrant le monsieur bleu, non pas celle-là, mais le monsieur bleu, là, en disant, et elle a dit devant 500 personnes qu'elle était d'accord. Donc, bon.
Bonsoir, je m'appelle Augustin. Et je voulais dire que déjà, quand on vous voit, on a tout de suite envie de faire partie de votre bande. Donc c'est... Et puis, je trouvais assez saisissant la manière dont tu racontes cette origine millénaire. Là, ça m'a fait un peu planer. Et je ne sais pas ce que les gens vont faire sur Mars aujourd'hui, à l'autre bout de l'univers, pour trouver... Je ne sais pas quelle réponse on va chercher, mais là, on a l'impression que c'est les choses qui sont venues autour de vous, voilà, que ça vient de très loin, sans que vous ayez eu besoin d'un vaisseau. Voilà, on a l'impression qu'il y a une maison qui s'est faite autour de ça.
Bonsoir, je m'appelle Maud. Merci pour cette soirée. J'ai trouvé ce collectif complètement unique. Et pour avoir cherché sur Internet plein d'associations, etc., c'est unique. Et en même temps, je me demande, est-ce que vous, peut-être, vous en avez trouvé ailleurs, dans d'autres pays, des liens, et pour finalement, voilà, dans cette mondialisation actuelle, est-ce qu'on ne peut pas aussi... étendre ce que vous faites et puis le rendre accessible à d'autres.
Alors des comme Ding Dang Dong, il y en a pas beaucoup dans le monde parce qu'on s'est renseigné un petit peu bien sûr parce que c'était avec Valérie le premier mouvement, c'est de regarder si ce qu'on avait envie de faire existait déjà et on a demandé à des personnes qui connaissent vraiment la communauté internationale. Et ils ont dit non, il n'y a pas d'entreprise pour fabriquer de la pensée spécifique sur Huntington et la création. Par contre, on s'inspire, nous, d'autres choses qui n'ont pas forcément de rapport avec Huntington. En fait, nos plus grandes inspirations, elles n'ont pas vraiment de rapport avec Huntington. C'est ce dont parlait Joseph tout à l'heure, les entendeurs de voix, qui sont ces personnes qui ont été diagnostiquées un jour schizophrènes et qui ont... décider de dire oui, mais de toute façon, quoi que je fasse, mes voix, je les entendrai toujours. Même si je prends des neuroleptiques, je serai complètement abattue, mais je continuerai à entendre mes voix. Et qu'est-ce qui se passe si je commence à écouter ce qu'elles me disent et qui elles sont, ces voix, et que je entame un commerce avec elles, et je me mets à avoir des bonnes relations avec elles, parce que c'est possible, en fait, de négocier avec ces voix. Et donc, voilà, ces changements comme ça, ces collectifs qui ont réussi à changer vraiment la donne, nous intéressent vraiment énormément. Il y a aussi des pratiques de militance qui nous ont inspirés, comme ACT UP. Donc, en fait, on est nous-mêmes des héritiers d'autres collectifs qui sont soit encore maintenant, soit ont été extrêmement... qui ont revivifié les choses. Et il y en a quand même un certain nombre, en fait. Aujourd'hui, ça c'est en train de bouillonner un peu les collectifs d'usagers avec des formes comme ça très très inédites et intéressantes, mais pas dans Huntington. Mais c'est pas grave. On est, du coup, on a dû se créer. Bien sûr. Oui. Ah oui, tu parles de la Hollande, docteur Marbeuf.
Mais ça, c'est toi qui sais, docteur Marbeuf.
Oui, bien sûr. Y a, on fait des. Oui. Comment on fait des terrains quand on peut en dehors de la France aussi, parce qu'on en fait beaucoup en France, mais aussi. En effet, on s'intéresse alors pour le coup à des endroits qui n'ont pas la prétention de fabriquer des choses pour le reste du monde, mais qui chez eux ont voilà une approche absolument extraordinaire en termes de pragmatisme, c'est-à-dire qui change vraiment. Le cours de Huntington au point de ne pas du tout utiliser les mêmes mots que nous. Ce sont des endroits où on ne parle quasiment pas de dépression, de démence, alors qu'on parle toujours de démence avec Huntington. Ils disent non, moi, on n'a jamais vu chez nous un patient dément. Alors on dit, bah, c'est pas possible, c'est pas normal, parce qu'ils sont hollandais, ils seraient pas déments. Pas du tout, pas du tout. C'est parce qu'ils écoutent, ils ont trouvé des manières de justement bien communiquer avec les personnes jusque très très loin dans la maladie, qui savent qu'il faut attendre parfois 5 minutes pour avoir une réponse, et qu'après il faut attendre 10 minutes pour avoir la deuxième réponse, mais que, en effet, si on reste juste 5 secondes, on se dit juste, oh, il comprend rien, celui-là, il répond pas. Et donc, ils ont changé progressivement beaucoup de choses depuis des années. Et tout d'un coup, quand on va là-bas, on a l'impression qu'on voit une autre version de la maladie. Et c'est ça aussi qui nous a énormément confortés dans ce qu'on fait. C'est qu'on se dit, ben, donc, c'est une question de version aussi. Et que la version, elle doit énormément, évidemment, mettre en œuvre tout un tas de gestes. C'est pas juste comment on la considère, mais aussi tous les gestes qu'on va faire générer de cette manière de la considérer, qui sont des gestes aussi très pragmatiques. En Hollande, ils ont inventé dans cet institut des cendriers incroyables qui permettent aux gens de fumer jusqu'au bout, alors qu'ils sont super coréiques. Mais c'est des cendriers qui sont fabriqués avec des bouts de sondes rectales mélangées à des sondes gastriques, avec le tout scotché avec du pansement, qu'ils ont trouvé dans leur mort à pharmacie. Voilà, c'est ce genre d'invention pour nous, c'est presque aussi important qu'un médicament, en fait. C'est une très, très, très. C'est une importante invention de pouvoir permettre à un Huntingtonien de fumer jusqu'au bout, sans mettre le feu.
Pour compléter par rapport à la question de Maud, le modèle Ding Dang Dongien, il n'existe nulle part ailleurs, enfin, à notre connaissance, c'est sûr. Et c'est... Ouais. Mais par contre, sur Huntington, il y a aussi d'autres initiatives. Assez innovantes et originales qui ont été mises en place. Et on peut penser notamment à HDU, l'association pour les jeunes, qui a été créée par un jeune Huntingtonien. Et c'est rare, les associations qui sont fondées et pilotées par des personnes qui sont porteuses du gène, en sachant que c'est aussi une association qui est très jeune. Je crois qu'elle a été fondée en 2011 ou en 2012. Et elle a pu s'implanter sur un nombre très, très important de pays. Ils font des choses qui sont super intéressantes pour les jeunes qui sont concernés, qui soient dans les familles d'Huntingtoniens ou qui soient porteurs ou déjà malades.
En tout cas, www.dingdangdong.org pour voir la vidéo du docteur Marbeuf numéro 1. En fait, c'est assez énorme, hein, tout ce qu'on va faire pendant cette résidence. Donc, je vais essayer de résumer très, très brièvement. Moi, je vais animer des ateliers d'écriture à partir de la semaine prochaine, le mardi soir à 19h. Pas tous les mardis, hein, il y a la date sur les dates.
C'est le 30 juin, le 1er. Et puis ensuite, c'est tous les mois. Donc, de mémoire, c'est juillet, c'est le 8.
Oui.
Et ensuite, je perds le fil, mais tout est sur le dépliant que vous avez.
Oui, il n'y a pas au mois. On fait une rupture au mois d'août. Et là, c'était l'idée de travailler à la fois avec des Huntingtoniens et du tout venant. C'est-à-dire à partir de toutes les expériences qu'on peut avoir des maladies, et on est tous dans cette salle concernés, parce que ça passe de la migraine au mal de tête, en passant par la gueule de bois, les règles, pas forcément des maladies très 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 graves, mais aussi les maladies graves sont les bienvenues. Toutes les maladies, nous ne sommes pas racistes, parce que prises comme des transports de soi, des moments d'altération, mais de métamorphose aussi, des éprouvés. Et pour essayer d'appréhender, commencer à mettre cette question de la langue au travail grâce à ce travail d'atelier d'écriture. Et puis aussi donc ce petit atelier clandestin qu'on va fabriquer ici, qu'on va animer avec des usagers qui viendront travailler à partir du mois de novembre, hein, sans doute, dans des workshops où on va prendre les choses depuis le langage d'une part, mais aussi pas seulement, depuis aussi des pratiques non verbales, pour essayer d'appréhender ce ressenti si mystérieux. Et puis aussi beaucoup de conférences. Alors il y en a beaucoup dans le cadre du festival Relecture de septembre à octobre. De certains membres du collectif, il y aura Isabelle Sengers qui va faire une conférence sur la science-fiction. Alors là, c'est vraiment elle la pro de la science-fiction. Donc c'est... Il y aura Fabricio Terranova qui va faire une conférence sur Donna Haraway qui risque d'être très 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 intéressant. Oui, n'est-ce pas? Ou un peu partout? Oui, organisée par Casma en tout cas. Il y aura une conférence de Vinciane Després, sans doute sur les animaux. Je lui ai demandé, j'insiste pour qu'elle peut-être elle fasse quelque chose sur les souris huntingtoniennes, mais ce n'est pas sûr qu'elle soit d'accord. Et puis il y aura Ah oui, Fabien Sioufi, parce qu'on fait aussi des jeux vidéo à Ding Dang Dong. Ouais, il vient. Alors oui, non, mais j'y viens. Il y a Dr Marbeuf aussi qui va faire une vidéo, une conférence, je m'y perds, une performance sans doute. Valérie Pied qui va faire une conférence sur la sexualité et Huntington. Alors, je pense que ce sera un peu plus tard. Voilà, c'est là exactement. C'est la première, la dernière des diapos de la conférence. La première. Voilà. Et t'as vu, ça t'a soigné de ta phobie des serpents. Parce qu'elle est phobique des serpents. Voilà. Voilà, c'est bon. Etc. Et à la fin, je referai un topo sur là où j'en serai, donc dans un peu moins d'un an. Mais j'ai dû oublier des choses, hein. Sébastien.
A priori, non. Je crois qu'on a le compte.
Tout ça sur le site de Casma et sur le site de Ding Dang Dong annoncé bientôt.
Ben, merci beaucoup. On peut peut-être continuer à discuter de façon un petit peu plus informelle. Le bar est ouvert, la librairie aussi, donc n'hésitez pas. Voilà. Merci.